Ruth ne vint que deux fois à Neely Street pour ses leçons de russe. Après quoi, Marina et June montaient dans son break et Ruth les embarquait. Probablement pour son domicile de la banlieue chic, du moins par rapport aux normes du quartier d'Oak Cliff, d'Irving. Son adresse ne figurait pas dans les notes de Hal. Il semblait peu se soucier de la relation qu'entretenait Marina avec Ruth, sans doute parce qu'il imaginait en avoir terminé avec Lee longtemps avant que le fusil n'atterrisse dans le garage des Payne. Mais je l'ai trouvé dans l'annuaire. 2515 West 5th Street. Par un après-midi de mars couvert, environ deux heures après le départ de Marina et Ruth, Lee et George de Morenchild débarquèrent dans la voiture paquebot du baron. Lee en descendit avec un sac en papier brun orné d'un sombrero et de la mention « Pepino, meilleur restaurant mexicain ». Morenchild portait un pack de 6 de Dos Equis. Ils sont montés par l'escalier extérieur, bavardant et riant. J'ai attrapé mes écouteurs, le cœur battant à se rompre. Au début, rien ne me parvint. Puis l'un d'eux alluma la lampe, et alors ce fut comme si j'avais été dans la pièce avec eux, le troisième homme invisible. « S'il vous plaît, on ne conspirait pas pour tuer Walker, » leur ai-je intimé en secret. « S'il vous plaît, ne me rendez pas la tâche plus compliquée qu'elle ne l'est. »
« Excuse le désordre, »
déclara Lee.
« Elle fout pas grand-chose ces temps-ci, à part dormir, regarder la télé et parler de cette femme à qui elle donne des cours de russe. »
Morenchild parla un moment des concessions pétrolières qu'il espérait obtenir en Haïti et n'eut pas de mots assez durs pour le régime répressif des Duvaliers.
« À la fin de la journée, les camions entrent sur la place du marché pour ramasser les cadavres. Beaucoup d'entre eux sont des enfants morts de faim. Castro et le front mettront un terme à cela, »
déclara Lee d'un ton âpre.
« Puisse la Providence hâter ce jour. »
Il y eut un tintement de bouteille, sans doute pour porter un toast à la Providence qui hâterait ce jour.
« Comment va le travail, camarade? Et comment se fait-il que tu ne sois pas là-bas cet après-midi ?»
« S'il n'était pas là-bas, » répondit Lee, « c'est qu'il préférait être ici, aussi simple que ça. » Il avait juste pointé en sortant et s'était tiré.
« Qu'est-ce qu'ils peuvent y faire? Je suis le meilleur technicien reprographe que le vieux Bobby Stowell n'ait jamais eu. Et il le sait. Le contremaître, il s'appelle... »
Là, je n'ai pas bien saisi. « Graphe, graphé... »
« Me sort... » Arrête de vouloir jouer les syndicalistes, Lee. Tu sais ce que je fais? Je me marre et je lui réponds « D'accord, Svinoyeb », et je lui tourne le dos. C'est un Konosov fini, ce mec, et tout le monde le sait.
Pourtant, il était clair que Lee aimait son travail, même s'il se plaignait des attitudes paternalistes et du fait que l'ancienneté prime sur le talent. À un moment donné, il a dit «
Tu sais, à Minsk, dans des conditions équitables, je deviendrai gérant de la boîte en un an. Je sais que tu y arriverais, fils. C'est tout à fait évident. »
Il le flattait, le remontait, j'en étais sûr. Et ça ne me plaisait pas.
« Tu as vu le journal ce matin ?»
lui demanda Lee.
« Je n'ai rien vu que des télégrammes et des notes de service ce matin. » « Pourquoi crois-tu que je suis ici, si ce n'est pour m'échapper de mon bureau ?»« Walker s'y est mis, »
annonça Lee.
« Il a rejoint la croisade de Hargis, ou alors c'est Hargis qui l'a rejoint, je sais pas bien. En tout cas, ils ont lancé leur foutu périple nocturne. Ces deux nigauds vont sillonner tout le sud pour dire aux gens que la NAACP est un front communiste. » Ils vont faire reculer de 20 ans l'intégration et le droit de vote des Noirs. Bien sûr! Et pratiquer l'incitation à la haine! Combien de temps avant que les massacres commencent? Ou que quelqu'un abatte Ralph Abernathy et Martin Luther King? Ah! Les Dr. King se fera descendre, c'est sûr!
Affirma Morenchild presque en riant. J'étais debout, les mains plaquées sur mes écouteurs, la sueur ruisselant sur mon visage. Nous étions là en terrain miné, à l'extrême limite de la conspiration.
Ce n'est qu'une question de temps.
L'un d'eux décapsula une autre bouteille de bière mexicaine et l'y reprit.
Quelqu'un devrait arrêter ces deux Nicolas. Tu as tort de qualifier notre général Walker de Nigo,
dit Morenchild d'un ton sentencieux.
Hargis, oui, d'accord. Hargis est Python. D'après ce que je me suis laissé dire, c'est un type, comme beaucoup d'autres de son acabit, porté sur les dépravations sexuelles. Prêt à tripoter la chatte d'une petite fille le matin et le trou de balle d'un petit garçon l'après-midi. Oh, mec, c'est dégueulasse!
La voix de Lee se fêla sur le dernier mot comme celle d'un adolescent. Puis il se mit à rire.
Mais Walker, ah ça, c'est pas le même panier de crabe. Il a une position élevée dans la John Birch Society. C'est fasciste, empli de haine contre les juifs. Et j'entrevois un jour, pas très lointain, où il pourrait bien la diriger. Une fois qu'il aura gagné la confiance et obtenu le blanc-seing des autres groupes de cinglés d'extrême droite, il pourrait même briguer un nouveau mandat. Mais pas pour le poste de gouverneur du Texas cette fois, je le soupçonne de viser plus haut. Le Sénat, peut-être. Même la Maison Blanche. Impossible,
affirma Morenchild. Mais Lee n'en semblait pas si sûr.
Peu probable,
corrigea Morenchild.
Mais il ne faut jamais sous-estimer la capacité de la bourgeoisie américaine à embrasser le fascisme déguisé sous le nom de populisme, ni le pouvoir de la télévision. Sans la télévision, Kennedy n'aurait jamais battu Nixon. Kennedy et sa poigne de fer,
fit Lee. Son affection pour l'actuel président semblait s'être démodée aussi vite que les souliers de daim bleu.
Il durera moins longtemps que Fidel ne chira dans les waters de Batista. Et il ne faut jamais sous-estimer la terreur de l'Amérique blanche à l'idée d'une société où l'égalité raciale serait devenue la loi.
Négros, négros, faillot, faillot!
Explosa Lee avec une rage si violente qu'elle confinait à l'angoisse.
« Je n'entends que ça au boulot !»«
Ça ne m'étonne pas. Quand le Morning News parle du grand État texan, il parle en fait de l'État du grand Satan. Et les gens l'écoutent. Pour un type comme Walker, un héros de guerre comme Walker, un bouffon comme Hargis n'est qu'un tremplin. » Comme Hindenburg fut un tremplin pour Hitler. Avec les relations publiques adéquates pour lui arrondir les angles, Walker pourrait aller loin. Tu sais ce que je pense? Que celui qui refroidirait le général de l'Amérique raciste Edwin Walker rendrait service à la société.
Je me suis laissé tomber lourdement sur une chaise à côté de la table où les bandes du petit magnétophone tournaient.
« Si tu crois vraiment... »
commença Lee. C'est là qu'un bourdonnement bruyant s'est déclenché dans mes écouteurs, m'obligeant à les arracher de mes oreilles. Aucun cri alarmé ou indigné n'a retenti à l'étage. Aucun bruit de pas précipité. J'en ai donc conclu, à moins qu'ils ne soient très doués pour dissimuler leur réaction, que ma lampe trafiquée n'avait pas été découverte. J'ai remis mes écouteurs... Rien. J'ai essayé le micro à distance en montant sur une chaise et en plaquant presque le saladier Tupperware contre le plafond. Je pouvais entendre la voix de Lee et les réponses sporadiques de Morenchild, mais je ne distinguais plus ce qu'il disait. L'oreille que j'avais tendue dans l'appartement des Oswald était devenue sourde. Le passé est tenace. Après avoir parlé encore 10 minutes, peut-être de politique, peut-être de la nature horripilante des épouses, peut-être de leur tout nouveau projet en gestation de s'en prendre au général Edwin Walker, Morenchild dévala l'escalier extérieur et fila au volant de sa bagnole. Le bruit des pas de Lee s'est déplacé au-dessus de ma tête. Clomp, clop, clomp. Je l'ai suivi jusque dans ma chambre et j'ai orienté le micro vers l'endroit où les pas s'étaient arrêtés. Rien. Rien. Puis un son, léger mais sans équivoque, Lee ronflait. Lorsque 2 heures plus tard, Ruth Payne ramena Marina et June, il dormait encore du sommeil de la Dos Equis. Marina ne le réveilla pas. À sa place, je ne l'aurais pas réveillé non plus, ce hargneux petit fils de pute. Après cette date, Oswald commença à s'absenter beaucoup plus souvent de son travail. Si Marina le savait, elle s'en balançait. Peut-être qu'elle ne l'avait même pas remarqué. Elle était absorbée par sa nouvelle amie Ruth. La fréquence des coups avait un peu baissé. Non pas parce que le moral était remonté, mais parce que Lee était dehors presque aussi souvent qu'elle maintenant. Il emportait souvent son appareil photo. Grâce aux notes de Hal, je savais où il allait et ce qu'il faisait. Un jour, après son départ pour l'arrêt de bus, j'ai sauté dans ma voiture et roulé jusqu'à Oak Lawn Avenue. Je voulais arriver de l'autre côté de la ville avant son bus et j'ai réussi. Sans difficulté. Il y avait des tas de places de stationnement en épi de chaque côté d'Oak Lawn, mais ma Chevy rouge, à l'arrière en aile de mouette, se reconnaissait de loin. Et je ne voulais pas prendre le risque que Lee l'aperçoive. Je l'ai donc garé au coin de Wycliffe Avenue, sur le parking d'une épicerie Alpha Beta. Puis je suis descendu en flânant vers Tuttle Creek Boulevard. Autour de moi, ce n'était que Neo Hacienda à arcades et revêtements en stuc. Allées bordées de palmiers, vastes pelouses, et même une ou deux fontaines. Devant le 4011, un homme svelte, dont la ressemblance avec Randolph Scott, l'acteur cow-boy, était frappante, poussait une tondeuse à gazon. Me voyant le regarder, Edwin Walker m'adressa un bref demi-salut militaire, la main tournée vers le front. Je lui ai rendu son geste. La cible de Lee Oswald poursuivit sa tâche, et moi mon chemin. Les rues qui m'intéressaient dans ce quartier de Dallas étaient Turtle Creek Boulevard, où habitait le général, Wycliffe Avenue, où j'étais garé, Avondale Avenue, vers où je me dirigeais après mon renvoi de salut à Walker, et Oak Lawn, une rue bordée de petits commerces passant derrière la maison du général. Oak Lawn était celle qui m'intéressait le plus, car ce serait l'itinéraire d'approche et de retraite de Lee le soir du 10 avril. Je m'étais posté devant chez Texas Shoes and Boots, le col de ma veste en jean relevé, les mains au fond des poches. Environ 3 minutes après ma prise de poste, le bus s'arrêta à l'angle d'Oak Lawn et Wycliffe. 2 femmes munies de cabas en descendirent dès que les portes s'ouvrirent, puis Lee posa le pied sur le trottoir. Il transportait un sac en papier brun, comme un ouvrier son déjeuner. Il y avait une grande église en pierre au coin. Lee s'approcha de la grille de fer qui la fermait en façade, lut le tableau d'affichage, sortit un petit bloc-notes de sa poche et y griffonna quelque chose. Après quoi, il poursuivit dans ma direction, remettant le bloc-notes dans sa poche tout en marchant. Je ne m'attendais pas à ça. Hal avait écrit que Lee allait cacher son fusil près de la voie ferrée de l'autre côté d'Oak Lawn Avenue, à un peu plus de 500 mètres de là. Mais peut-être que ses notes étaient erronées, car Lee ne jeta même pas un coup d'œil dans cette direction. Il n'était plus qu'à 70 ou 80 mètres de moi et comblait rapidement la distance. J'ai pensé, il va me remarquer et il va me parler. Il va me dire, vous seriez pas le gars du dessous? Qu'est-ce que vous fichez ici? S'il le faisait, l'avenir s'infléchirait dans une nouvelle direction. Pas très bonne. Je regardais fixement les chaussures et les bottes dans la vitrine, la nuque moite de la sueur qui commençait à me dégouliner dans le dos. Quand finalement j'ai osé lever les yeux et les tourner vers la gauche, Lee avait disparu. On aurait dit un tour de magie. J'ai remonté la rue d'un pas de flâneur. Si seulement j'avais mis un chapeau et des lunettes de soleil. Pourquoi n'y avais-je donc pas pensé? Quel genre d'agent secret à la manque est-ce que j'étais de toute façon? À mi-rue, je suis arrivé devant un café. Dans la vitrine, un écriteau annonçait « petit déjeuner à toute heure ». Lee n'était pas à l'intérieur. L'autre côté du café donnait sur une ruelle. Je l'ai lentement traversé, en jetant un bref regard sur ma droite, et là, je l'ai vu. Il me tournait le dos. Il avait sorti son appareil photo du sac en papier, mais ne prenait pas de clichés, du moins pas pour le moment. Il examinait des poubelles. Il en retira les couvercles, regarda à l'intérieur, puis les referma. Chaque fibre de mon corps, par quoi j'entends, j'imagine, chaque impulsion de mon cerveau, me commandait de me bouger les fesses avant qu'il se retourne et me voie. Mais une puissante fascination me cloua sur place encore quelques instants. Je pense qu'il en aurait été de même pour la plupart d'entre vous. Avez-vous eu beaucoup l'occasion de regarder un type planifier un meurtre de sang-froid? Il s'enfonça un peu plus dans la ruelle, puis s'arrêta devant une plaque en fer circulaire coulée dans un bloc de béton. Il tenta de la soulever, sans succès. La ruelle, longue de 200 mètres environ, était en terre battue, assez défoncée. Après les 100 premiers mètres, la clôture en grillage fermant les arrière-cours envahies d'herbe et les terrains vagues était remplacée par une haute palissade en planches couverte de lierre au feuillage assez mal en point après cet hiver rigoureux. Lee en écarta une brassée pour tenter de faire jouer une planche. La planche pivota et il lorgna derrière par le trou béant. Je n'ai rien contre la formule de Hall voulant qu'on ne fasse pas d'omelette sans casser des œufs, mais il me semblait que j'avais assez joué avec ma chance comme ça. J'ai continué mon chemin. À l'angle de la rue suivante, je me suis arrêté devant l'église qui avait suscité l'intérêt de Lee. C'était l'église d'Oakland des Saints des Derniers Jours. Le panneau d'affichage indiquait les horaires du culte régulier tous les dimanches matins et les offices spécifiques pour les nouveaux pratiquants tous les mercredis soirs à 19h, suivi d'une heure de discussion conviviale autour de rafraîchissements. Le 10 avril était un mercredi et le plan de Lee, en supposant que ce ne fût pas celui de Morenchild, me semblait soudain assez clair. Cacher à l'avance le fusil dans la ruelle, puis attendre que l'office pour les nouveaux pratiquants et son heure de discussion conviviale se termine. Il entendrait les fidèles sortir, riant et bavardant tout en se dirigeant vers l'arrêt de bus. Les autobus passaient tous les quarts d'heure, et il y en avait toujours un en vue. Lee ferait mouche, remettrait le fusil derrière la planche détachée, et non près de la voie ferrée, puis se mêlerait aux gens sortant de l'église. Lorsque le bus suivant arriverait, il filerait. J'ai jeté un coup d'œil sur ma droite, juste à temps pour le voir sortir de la ruelle. L'appareil photo avait réintégré le sac en papier. Il rejoignit l'arrêt de bus et s'appuya contre le poteau. Un homme arriva et lui adressa quelques mots. Bientôt, tous deux étaient en grande conversation. Taillait-il une bavette avec un inconnu, ou bien ce type était-il un autre ami de Morenchild? Rien qu'un type anonyme croisé dans la rue, ou un co-conspirateur? Pourquoi pas même le célèbre tireur inconnu, qui, selon les théoriciens du complot, s'était embusqué sur le talus herbeux près de Dealey Plaza, au moment où le cortège de Kennedy approchait. Je me suis dit que j'étais fou. Mais comment en avoir la certitude? Je n'avais aucun moyen de savoir quoi que ce soit avec certitude, et je ne serais pas plus avancé tant que je n'aurais pas vu de mes propres yeux qu'Oswald était seul le soir du 10 avril. Même ça ne suffirait pas à endormir tous mes doutes, mais ce serait néanmoins suffisant pour me permettre d'aller de l'avant. Suffisant pour tuer le père de Junie. Le bus arriva en grondant. L'agent secret X-19, connu également sous le nom de Lee Harvey Oswald, marxiste de renom et mari abusif, y monta. Une fois le bus hors de vue, je fis demi-tour en direction de la ruelle que je remontais sur toute sa longueur. Au bout, elle s'élargissait pour aboutir dans un grand jardin sans clôture. Une Chevy Biscayne année 57 ou 58 est égarée à côté d'une pompe à gaz naturelle. Un barbecue rond était posé sur un trépied. Au-delà, on distinguait l'arrière d'une grande maison de pierre brune plongée dans l'obscurité. La maison du général. J'ai regardé à mes pieds et aperçu une traînée fraîche dans la boue. C'était celle laissée par une poubelle posée là où s'interrompait le sillon. Je n'ai pas vu Lee la déplacer, mais je savais que c'était lui qui l'avait fait. Dans la nuit du 10, il s'en servirait de poste de tir pour caler le canon de son fusil.